France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous, c'est la grande Maria Callas que nous accueillons aujourd'hui grâce aux archives dans une série de trois entretiens que la productrice Micheline Banzet avait réalisée au domicile parisien de la Diva en janvier 1965. La Callas évoquait ses origines, son éducation, son manque de confiance, sa voix, le travail bien sûr et les personnages qu'elle a incarnés sur scène. Voici aujourd'hui le premier volet de cet entretien avec la prima donna du XXe siècle.
Madame Callas a bien voulu me recevoir chez elle à Paris tout récemment en faveur des auditeurs de la radiodiffusion française, de vous tous qui nous écoutez en ce moment. Vous aurez donc dans un instant le privilège de vivre auprès d'elle, dans la chaleur si attachante de sa présence, l'éclat de son intelligence et aussi la douceur de son charme. Et vous pourrez découvrir, oui c'est vraiment une découverte, la jeune femme qu'elle est, très simplement, derrière les visages que vous lui connaissez. Et voici d'abord la Callas, celle qui vous est plus familière, l'héroïne de tant de disques célèbres. Ici, c'est Mimi dans La vie de Bohème de Puccini.
Oh.
Maria Callas, d'abord je vous remercie beaucoup de nous donner un peu de temps. Je sais que vous êtes à la veille de chanter Tosca et j'imagine bien que je vous gêne en venant vous parler. Vous fatiguez peut-être la voix en essayant de vous faire parler, j'en ai scrupule.
Non, c'est pas ça. C'est malheureusement ma nature et j'aime pas trop parler.
Alors, je voudrais simplement que vous sachiez que chez moi, j'ai des quantités de lettres. Et si vous voyez ces papiers, je suis sûre que vous seriez émue de les voir. Quelquefois, c'est du papier à carreaux, une écriture
moi
un
aussi.
Peu vieillotte à la pluie.
C'est émouvant, oui.
Quand est-ce que vous nous donnerez Madame Callas? Dans les 3 jours. Alors, moi, naturellement, sachant ça, je me disais quand même, il faudrait un jour que je vienne l'ennuyer. Mais j'en ai terriblement scrupule, parce que je sais que les questions, on vous en pose toujours. Fatalement, un peu toujours les mêmes. Je sais aussi qu'on écrit bien sûr beaucoup sur vous et tout cela doit vous ennuyer effroyablement. Alors je voudrais d'abord que vous me pardonniez au nom de tous ces millions d'auditeurs qui le demandent.
Vous êtes très aimable, madame.
Ensuite, vous avez eu la gentillesse de m'accueillir chez vous un jour à Milan, il y a de cela 3 ans.
4 ans, j'ai l'impression, non?
Vous avez meilleure mémoire que moi, alors. Enfin, le docteur Geringhelli m'avait proposé d'aller vous voir chez vous. J'étais affreusement intimidée, naturellement, de me trouver en face de vous. Et après ça, quand je suis rentrée, on m'a dit, mais comment était-elle? Mais j'ai dit, elle était si gentille, elle est si simple que, en sortant, on se dit, tiens, j'aimerais bien l'inviter pour un week-end à la mer ou à la campagne chez moi, comme une amie, enfin, absolument. Et après ça, je me suis dit, c'est de la Callas que je peux imaginer que j'aurais cette idée. Et alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai accepté quand même, quand vous avez bien voulu que me recevoir ici, de venir, mais j'en étais vraiment très confuse.
Enfin, vraiment, pour le moment, c'est moi qui ai confusé. Parce que vous êtes tellement gentille et vous parlez tellement bien que maintenant, vraiment, je ne sais pas comment parler moi-même.
Il va quand même falloir en arriver aux questions, vous savez.
Vous êtes très gentille.
Alors, avant de vous voir, vous m'avez dit en arrivant, vous avez un volume de papier. C'est pas que j'ai un volume de papier, mais avant de vous déranger, j'ai voulu être consciencieuse. D'abord, j'ai réécouté tous vos disques. Et puis, j'ai voulu relire ce qui avait été écrit sur vous. Et pour essayer de me mettre à la place des auditeurs, de dire comment est-ce qu'ils l'imaginent. D'abord, ils ne sont pas sûrs si vous êtes américaine ou grecque.
La vérité est que je suis née en Amérique et je suis du sang pur grec, évidemment. Et j'ai épousé un Italien, voilà.
Mais enfin, vous vous sentez quand même latine, vous-même.
Oui, européenne beaucoup, c'est vrai, parce qu'on a vécu beaucoup ici.
Oui. Et vous avez fait vos études quand même en Grèce.
Disons, études artistiques, oui. Mais l'école, j'ai fait en Amérique.
Petite école
débutante. Et oui, jusqu'à 13 ans, parce que puis après j'ai commencé à étudier le chant, alors je ne pouvais pas y arriver, évidemment, à cet âge, à tout faire. Et alors je n'ai pas fait des études, malheureusement, mais enfin. Et le 37, je suis allée à Athènes, j'ai commencé tout de suite avec le conservatoire, avec mes études, et tout de suite sur scène. Parce que déjà à 14 ans, j'ai débuté sur scène. Et alors, disons, l'éducation, je n'ai pas eu. Voilà.
C'est vous qui le dites, mais vous l'avez eu, je crois, d'une autre manière, mais ça, nous en parlerons après. Pourquoi avez-vous chanté? Est-ce que vous avez une idée?
Pourquoi? Parce qu'on m'a fait chanter.
On vous a fait chanter. Oh, vous, oui. Petite fille, au fond, vous n'aviez pas spécialement envie.
Bien, évidemment, vous savez, à 13 ans, il y a la mère et le père qui décident, n'est-ce pas? Et alors, voilà, ils ont décidé ça.
Est-ce que vous avez eu l'impression que vous avez été en cela le jouet du destin ou est-ce que vous croyez qu'on peut avoir une influence sur son destin?
Non, je crois sûrement sur mon compte, disons. Je trouve que je suis une créature de destin, sûrement.
Est-ce que vous avez eu l'impression, quelquefois, vous aviez lutté pour faire ce destin dans un sens?
Non, sûrement pas. C'est-à-dire, évidemment, moi, j'étais toujours prête, j'ai étudié, parce qu'il n'y a pas d'excuse à dire, oui, le destin, je suis créature de destin, puis on n'étudie pas, on se couche tout le temps, on reste là à se reposer et attendre le destin. Non, il faut toujours se préparer, toujours étudier pour nous-mêmes. Et pour que le destin arrive, quand il va arriver.
Alors, vous n'avez pas choisi le destin de chanter, mais vous avez très vite eu le goût des planches.
Non, je n'ai pas choisi le destin du chant. Je n'ai jamais eu vraiment de confiance dans le chant parce que je ne croyais pas que j'avais de voix. Enfin, mais puisque ma mère insistait tellement, évidemment, je n'avais pas d'argent pendant la guerre donné à une professeure de chant au conservatoire. Alors, j'ai toujours gagné les bourses d'études. Et ça me donnait évidemment, la sûreté que j'avais de talent. Mais je n'ai jamais cru vraiment à moi-même. Mais je ne savais pas faire autre. Alors, j'ai aimé beaucoup la musique, l'art. Et puisque j'étais là, dans ce métier-là, je devais pourtant me gagner la vie.
Alors vous avez continué parce que là, vous venez de donner un trait de vos caractères justement aux auditeurs. C'est que vous êtes très travailleuse, je crois, et très acharnée à ce que vous faites.
Ça, oui, mais jamais assez parce que la voix humaine est une chose qu'on ne peut pas trop abuser. Et alors, on travaille avec la musique dans la tête, disons, et dans l'esprit.
Oui, mais on peut travailler probablement des choses autour. Est-ce que justement, quand vous étiez en Grèce, vous aviez l'occasion d'entendre
J'ai
des
la...
chanteuses?
Oui, mais non, c'était pas ça sûrement. Parce qu'en Grèce, je veux pas faire des torts à mes collègues grecs, mais enfin, il y a des très jolies voix, mais l'opéra, enfin, c'était petite. J'avais pas vu, disons, l'Italie, où il y a le culte de l'art, mais j'ai eu de la chance, ça, sûrement c'était le destin, que j'ai eu comme professeur Madame de Hidalgo, Elvira de Hidalgo, qui a fait une très grande carrière. Ça suffit de vous dire enfin qu'elle faisait le quartet avec Chaliapine, Caruso et Tita Ruffo. Ils ont voyagé partout, le monde, faisant le Barbier de Séville. Alors qu'en compagnie, c'est pas mal.
Bien sûr, elle était espagnole,
disons,
je crois.
Elle était espagnole, et alors j'ai eu la base très bonne. La base, surtout, des petits trucs, disons, de l'art et de la vieille école, comment chanter le bel canto, comment préserver la voix. On n'a jamais assez des leçons de ce genre-là. Tandis qu'aujourd'hui, les petites filles, disons, elles ont des très jolies voix, elles ont une méthode assez bonne, mais de là, ils n'ont plus rien. C'est-à-dire, ils n'ont pas la base, ils n'ont pas les petits trucs de sauter en-dessus du chant, c'est-à-dire d'interpréter.
Et
sinon,
est-ce qu'il y a des écoles,
pas.
Je voulais dire, différentes au point de vue technique? Est-ce que vous croyez que les chanteuses allemandes, les chanteuses italiennes ou les espagnoles, justement, puisqu'il y a quand même des
Mais attention, les espagnols ont étudié avec de cette école, disons, de la d'Hidalgo, Supervia et tous ces genres-là. Ils avaient des italiens, je ne me rappelle pas, je ne veux pas dire une bêtise, mais c'était l'école, disons, italienne, de bel canto de 1800, disons, de Malibran et en bas. Évidemment, Malibran, son père, c'est-à-dire Garcia, n'était pas italien.
Bien sûr. Oui.
Mais c'était une école, disons, internationale. L'école de bel canto, c'est tout. Elle n'existe plus maintenant, d'ailleurs.
Qui n'existe plus. Mais alors là, quand vous dites qu'elle n'existe plus, pourquoi n'existe-t-elle plus? Parce qu'il y a des gens qui l'ont connue, qui pourraient la perpétuer.
Non. C'est une chose qu'il faut de travail dur, il faut une respiration spéciale, pas seulement, disons, des notes aiguës, c'est le phrasé. C'est, enfin, tout ce que comporte la musique.
Ce n'est pas seulement une technique de voix, donc c'est une chose d'interprétation davantage.
C'est la musique. C'est la musique appliquée sur la voix. Mais aujourd'hui, on ne fait que des notes et on détache. Il n'y a pas le legato, il n'y a pas la fioritura, il n'y a pas l'expression. Il y a le verisme. Et alors, on commence tout de suite la carrière avec une petite voix ou jolie voix. Et on n'y pense pas à tout ce que comportait le commencement de l'opéra, disons.
Parce que vous dites, on commence la carrière, justement. Mais quand même, entre votre étape au conservatoire et la carrière, il y a des années.
Et oui.
Et ce sont des années qui sont souvent, j'imagine, assez difficiles.
Ce n'était pas si vite fait une fois. Vous savez, une fille ou un garçon devait étudier beaucoup d'avant. Avant, puis il devait faire la carrière, disons, en commençant par des petits théâtres. Et alors, évidemment, il y avait des grands chefs d'orchestre, ça contribuait beaucoup à nous donner des conseils, nous préserver. Et puis, ça, comme ça, on faisait, disons, les os ou l'épine dorsale.
Oui.
Et quand on arrivait, disons, des grands théâtres, nous avions les nerfs bonnes, sûrement, et aussi la base et l'expérience.
Est-ce que pour vous, la première fois que vous avez chanté sur la scène, c'était vraiment une immense joie et un
très
grand plaisir?
Oh non, pas du tout. On croyait qu'on savait tout. Pour nous, ça nous... Vous savez, quand on est jeune, on nous doit tout. Et alors, on croyait que c'était le devoir de la vie de te donner toute la chance du monde. Je n'étais pas effrayée du tout, je m'en fichais. Pas mal, pardon l'expression. Et tandis que maintenant, c'est bien différent, évidemment.
Vous croyez que plus on avance en âge, on peut dire quand même, bien que ce soit un grand mot à l'âge que vous avez, mais néanmoins, plus les années passent, plus on a conscience de ses responsabilités.
Ça fait 28 ans, je crois.
Un journaliste a écrit que vous aviez de plus en plus peur. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas peur du public, c'est peur de nous. Oui. C'est peur qu'on ne fait pas justice à cette grande... destin, grand devoir qu'on a.
Alors vous-même, l'histoire toujours dit que vous avez lu beaucoup à ce moment-là, c'est-à-dire après vos années de conservatoire, et que vous avez commencé vraiment à beaucoup chanter au théâtre, à l'influence de Tullio Serafini, qui était un des grands chefs d'orchestre.
Ça, c'était après la première, disons, carrière, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai fait une petite carrière de 8 ans en Grèce.
Oui, mais vous étiez toute jeune.
Oui, j'étais toute jeune, c'est vrai, mais malheureusement, je dois dire une chose. Une fois, même en Grèce, avant la guerre, pendant la guerre, pas avant, parce que tout de suite avant, je n'ai pas chanté, enfin le 38,
oui.
39, il y avait la guerre.
Oui.
Vous savez, pour préparer une opéra, on prenait 6 mois de répétition matin et soir. Alors, on arrivait, on n'en pouvait plus, mais on était préparé. Tandis que maintenant, c'est changé aussi. Et ça peut pas aider à moi, je dis pas à moi, parce que je suis habituée à entraîner tout ça, mais aux jeunes, parce qu'on fait très peu de répétitions, on les jette sur scène comme ça, sans préparation, sans connaître bien l'opéra et les trous et les difficultés et les facilités de l'opéra pour savoir, enfin, se garder. Et alors, ça, c'était une grande chance que j'ai eue. Puis, j'ai quitté la Grèce, que c'était le 45, et j'étais évidemment sans rien parce que j'étais toute jeune, il n'y avait personne qui me croyait. On disait enfin que c'était une voix splendide, mais ils n'avaient pas de confiance en moi. Alors, ils disaient, faites la carrière d'abord en Italie, puis on va vous engager. Alors, ça, évidemment, ça n'aide pas beaucoup.
Bien sûr, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux.
Oui, oui, parce qu'on ne te donnait pas la chance de te montrer ce que tu étais.
Oui.
Puis, j'ai eu une grande chance, disons, une offre d'un contrat au Metropolitan. Il y avait M. Johnson, alors le directeur, il m'a donné la possibilité de chanter la Butterfly que je n'ai pas acceptée, évidemment, comme début. Je ne croyais pas que c'était ce qu'il fallait alors pour moi, comme début, sûrement,
oui.
Parce qu'après, on aura pu le faire comme début. Il faut faire très attention, choisir le mieux.
Oui.
Et alors, ça, c'est très important, je savais. Et puis, il me donnait Fidelio en anglais, et j'ai chanté Fidelio très bien, on dit, en Athènes. Mais évidemment, en anglais, j'aime pas chanter.
Oui, et puis
et
ça
alors,
pas
j'ai pas accepté, j'ai refusé. On me disait vraiment folle. Et moi aussi, je m'appelais folle parce que je disais, une chance comme ça, c'était fini, j'aurais jamais eu plus. Et le secret de moi, je crois, que c'était savoir dire non, choisir. Et attendre, évidemment, avec angoisse et douleur et soucis, mais savoir attendre.
Patience, travail et intelligence, voilà et trois traits probablement
oui.
De votre caractère.
Et le caractère est de pouvoir dire non, pas pour caprice, mais pour avoir pensé, pesé les choses, et l'instinct, disons, c'est l'instinct que te...
Vous savez que vous devez répondre tout à l'heure. Vous m'avez dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Vous avez répondu exactement ce que j'espérais.
Oh, mais je
demande... Qu'est-ce qu'on imagine? Des caprices. En fait, c'est de la sagesse, de la patience.
Mais je vous dis le caprice, je vous dis tout de suite. C'est ce que vous, on appelle caprice. C'est clair. Chacun de nous, je dis moi, le directeur de théâtre, le chef d'orchestre, n'importe qui. Et alors, on te demande de faire une chose, l'autre chose, je ne sais pas quoi. Alors, puisque tu dis non, pas pour caprice, parce que tu ne dois pas, il faut pas, je ne sais pas, et tu n'arrives pas. Alors tout de suite, elle dit, oh, qu'elle est méchante, elle m'a dit non. Moi, que j'étais si gentille, elle est capricieuse, elle est méchante. Et alors commence le cercle vicieux, comme vous avez dit. Voilà le caprice. Ce n'est pas une question de caprice. On n'arrive pas à faire tout ce que les autres veulent. Des fois, les autres veulent ce qu'il ne faut pas faire.
Bien entendu.
Et alors, encore, je retourne ce que j'ai dit, qu'il faut savoir dire non. Mais quand on dit non, alors on a les conséquences.
Est-ce que vous croyez qu'il est difficile, dans une certaine mesure, pour une jeune artiste, justement, peut-être un peu grisée par les premiers contrats, de prendre le temps, justement, de réfléchir
non,
à ce qu'elle veut
pas.
Faire?
C'est vrai, elle ne prend pas le temps et se pense tout de suite qu'elles sont grandes, fermeuses et tout ça. Et voilà, le commencement de la fin.
Le commencement de la fin, parce qu'en fait, l'engrenage est assez rapide.
Et oui.
Alors, vous-même, vous nous disiez donc que vous avez eu la chance d'avoir cette période relativement anonyme encore en Grèce, tout
oui.
Limitée à la Grèce, qui vous a permis
oui,
de
voilà.
Travailler en profondeur.
Et oui, voilà.
Et puis ensuite, donc, refus de New York, parce que ce qu'on vous proposait, vous aviez la sagesse de
oui,
penser que
ce
n'était pas de l'occasion rêvée. Et
alors,
donc, vous avez quand même été en Italie.
J'ai eu de la chance, c'était le destin, voilà, tout à fait, qu'ils cherchaient dans 47 pour l'Arena di Verona. C'est le théâtre ouvert, une arène.
En plein air.
Et c'était Séraphine alors. Et le directeur du théâtre, c'était Zenatello, un grand ténor d'une fois. Et il demandait, enfin, pour la Gioconda, il n'existait pas une dramatique soprano, que malheureusement, tout à l'heure, n'existe pas encore. Et pour faire la Gioconda, et il m'a entendu, il m'a écouté, et j'ai eu de la chance d'avoir ce contrat. Ce n'était pas un beau contrat, mais c'était la chance. Je n'ai pas regardé les clauses et tout ça. J'ai dit, bon, je vais à n'importe quel prix et je prends mon chance.
Pour vous, c'était un bon contrat parce que c'était
et
quand même
oui.
L'occasion de rencontrer
voilà ce que je
des
dis.
Personnages
c'était Séraphine, le directeur. C'était avec des collègues illustres, évidemment, fameux. Moi, j'étais pas du tout fameuse. Alors, pour moi, c'était la vraie chance, le destin. Mais j'ai pas eu de la chance, c'est-à-dire, je me suis fait très mal à la cheville. Alors, c'était un peu une chose douloureuse et... Enfin, puis après, c'était l'autre chose. On m'a pas tout de suite compris. C'était une voix un peu difficile à comprendre. D'ailleurs, elle est une voix difficile à comprendre au commencement, je crois, la mienne.
Parce que dès le début, vous dès aviez début, déjà les caractéristiques que vous avez aujourd'hui dans votre
sûrement,
interprétation.
Sûrement.
Ça, ça vient
alors,
de vous, quand même.
Ça, c'est, oui, tout à fait. Alors, ça, c'est sûrement contre la tradition italienne, vous comprenez. Alors, on a aimé, mais on a été un peu bouleversé, un peu choqué, disons. Et on m'a toujours rappelé, disons. On ne m'a pas oublié, mais on n'a pas aimé. Enfin, on a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce n'est pas comme les nôtres. Ce n'est pas la façon de chanter comme le nôtre. Évidemment, c'est le chanter de bel canto tout à fait, un peu oublié. Il y a des traditions, disons, mauvaises ou bonnes italiennes. Enfin, tout court, on ne m'avait pas tout à fait compris. Et ça a duré pendant au moins un an. Enfin, il y avait puis un petit épisode drôle qu'on m'a demandé à faire une audition à la Scala après un mois. Et on m'a demandé de chanter deux morceaux. Je crois que c'était pour le ballet Maschera. Et alors, on a dit, alors il était le directeur, M. Labroca, et tout court, il m'a dit qu'il craignait de m'engager parce que c'était une voix, que ce n'était pas tout à fait italienne. Il avait peur, enfin, que le public réagisse. Le résultat, c'était qu'il ne m'a pas voulu. Quand, vous savez, donc, en Italie, quand la Scala te proteste en mots simples, disons,
oui.
Toutes les autres portes sont fermées. Parce qu'elle dit, oh, ça y est, elle ne vaut rien, c'est fini. Heureusement que le destin, appelons-le un maestro Serafine, il avait besoin de moi, évidemment, parce que le destin est toujours comme ça. Quelqu'un ne fait rien pour le bon cœur. Nous ne faisons pas des illusions. Et alors, il avait besoin d'une Isolde et d'une princesse de Turandot. Et alors, il m'a engagé la Fenice de Venise. De Venise pour exactement l'Isolde. Et...
Vous avez chanté Wagner.
Oui, j'ai chanté Wagner. Évidemment, en italien, parce qu'alors, il s'usait chanter en italien là-bas, les opéras wagnériennes. Et j'ai chanté... Puis Parsifal et Valkyrie.
Et Valkyrie aussi, la Brunhilde. Tous les Wagner,
oui,
c'est
important. Et alors, il m'a engagé pour ça. Et évidemment, ça coûtait parce que M. Serafine avait disputé avec la Scala. Alors, Serafine a fait des beaux spectacles. Évidemment, la Scala n'a pas aimé ça. Alors, c'était moi qui payais les conséquences. Alors, il ne me voulait pas. Enfin, à la Scala, je suis arrivée beaucoup plus tard. Je suis arrivée le 52, si je ne me trompe pas. J'ai ouvert la saison. C'est-à-dire, pardon, je vais en arrière. On m'avait demandé à la Scala pour chanter quelques reprises de l'Aïda pour la foire, disons en avril. Et j'ai fait ce spectacle parce qu'ils m'avaient supplié, on m'avait dit, je ne sais pas, on m'avait promis beaucoup de choses. Pour conséquence de ce spectacle, puis j'ai fait l'Aïda et j'ai jamais plus vu les directeurs de la Scala comme d'habitude dans tout le monde quand ils obtiennent quelque chose puis ils oublient les promesses et tout ça. Et alors j'ai dit bon, c'est très bien, et une autre fois quand ils vont venir on va évidemment clarifier les choses. Et ils sont venus et j'ai dit très bien, je viens, mais pas pour remplacer une autre ou pas pour reprendre des spectacles. Et alors, ils ont dit, mais non, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, ça veut dire tout simplement, si vous me voulez, je suis ici pour des spectacles à moi. Quand vous aurez besoin, venez me chercher. C'est tout. Et ils sont venus, évidemment, parce qu'ils avaient besoin. Alors, nous avons ouvert la Scala avec le Vespri Siciliani. Dans cette saison, j'ai fait aussi Norma, Enlèvement du Serail. C'était... très grand succès, disons, je ne peux rien me plaindre. Puis l'année encore suivante, on a fait Macbeth et je ne me rappelle plus quoi d'autre. Enfin, c'était depuis alors, c'était la lune de miel, disons, avec la Scala. Mais évidemment, vous voyez qu'il y avait des moments difficiles. Et encore, pouvoir dire non. Ça, c'est ne pas accepter n'importe quoi, parce que si tu débutes mal, puis après, tu dois payer pendant plusieurs années pour remonter les escaliers de cette carrière, disons.
Mais alors, est-ce qu'une des principales difficultés n'est pas de se connaître très bien soi-même?
Oui, il faut peser bien les choses, connaître très bien, avoir beaucoup de confiance et pas avoir de confiance. C'est-à-dire, une fois qu'on a de confiance, il faut se jeter dedans. Mais évidemment, il faut savoir exactement ce que tu peux faire et pas risquer. Si tu n'es pas sûr que tu peux te le permettre, évidemment, risquant veut dire si tu es malade, si quelque accident arrive, ça c'est autre chose.
Bien sûr.
Ça c'est pas risqué. Ça c'est risqué, le vrai risqué. Mais risqué quand tu n'es pas sûr de toi-même, ça c'est la bêtise que nous chanteurs, nous faisons très souvent.
Il nous faut vous quitter, madame, pour retrouver la Calas, celle que les auditeurs connaissaient et que j'ai voulu ici, elle aussi, sous de multiples travesties, en compagnie des maîtres qu'elle sait si bien servir. Avec Mozart, elle est Donna Anna. À la Donna Anna de Mozart succède la douce héroïne de Werther telle que Massenet en a fait le portrait.
Et j'ai prié, je me
Vous connaissez bien Maria Callas, la grande tragédienne, la Norma désormais légendaire, ou bien Floria Tosca, que Paris attend dans quelques jours. Vous connaissez moins bien peut-être l'étincelante technicienne, qui semble s'être amusée à jouer les trapézistes vocales lorsqu'elle enregistrait la grande vocaliste de Dinora de Meyerbeer.
Thank you.
j'ai essayé dans cette émission de souligner l'art exceptionnel de celle qui a su si intensément personnifier chaque rôle qu'elle abordait. Et c'est pourquoi ici, Puccini, Mozart, Massenet et Meyerbeer vont voisiner avec Verdi. Vous avez reconnu la tendre et fière Aïda de Verdi. Mais c'est la grande tragédienne qui vous est peut-être plus familière que nous quitterons aujourd'hui dans ce disque qui s'intitule « Scène de la folie » et où elle incarne devant vous à présent Anne Boleyn.
Thank you. Thank you.
Ainsi s'achève le premier opus de l'émission « Trois jours avec Maria Callas » produite par Micheline Banzet en 1965, dont nous retrouverons la suite demain. D'ici là, cette archive est disponible à la réécoute et au podcast sur le site francemusique.fr à la page des Trésors de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.